Sans détour avec François Beauregard.
Bonjour, ici François Beauregard et vous écoutez Sans détour, l'édition du 14 février 22. Évidemment, le 14 février, on sait tous ce que c'est, la Saint-Valentin. Pour certains d'entre nous, c'est une bonne fête, c'est une belle journée. Pour d'autres, c'est pas nécessairement la journée qu'on préfère de l'année. Alors, mes sympathies pour tous ceux ou celles pour qui la Saint-Valentin n'est pas une joyeuse journée. Cela dit, nous allons parler aujourd'hui avec Isabelle Côté, directrice générale et artistique du théâtre Aphasique, qui reprend tranquillement ses activités. Nous aurons le plaisir de recevoir Chantal Crédit, chercheur spécialiste en orientation et mobilité. Il s'agira de la première étude sur l'impact du port du masque sur l'orientation des personnes ayant un handicap visuel. Notre collègue Christiane Campagna nous fera, comme d'habitude, son excellente revue de presse. Mais avant tout ça, nous allons parler d'impôts. Voilà, tout ça dans Sans détour. J'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie M. Jocelyn Caron, directeur général de Fine Autonome, un organisme à but non lucratif qui voit à promouvoir et à faire l'éducation, promouvoir la connaissance financière auprès des personnes qui vivent une situation d'handicap. Bonjour M. Caron.
Bonjour M. Beauregard, ça va bien?
Ça va super, je vous remercie. Là, on parle de la saison des impôts. Et les impôts, c'est pas le sujet préféré de beaucoup de gens. Et même certaines personnes ne se sentent pas vraiment concernées parce qu'elles ont l'impression que pourquoi moi, je devrais faire une déclaration, j'ai pas de revenus ou j'en ai si peu que de toute manière, je ne paye pas d'impôts. Mais c'est une fausse conception, n'est-ce pas?
Bien, c'est une fausse conception. C'est surtout quelque chose qui peut jouer à votre détriment. Mm-hmm. Si vous avez des faibles revenus. Je vous dirais que la première chose, tout contribuable est tenu de faire une déclaration d'impôt. Donc, même si vous pensez que vous n'en devez pas...
Il y a une obligation légale de produire.
D'en faire une, donc tu sais... C'est sûr que quand on n'en doit pas, les agences fiscales sont moins sévères, mais il y a quand même une obligation d'en faire une. Donc, président. Mm-hmm. Ensuite de ça, oui. C'est qu'il y a des aides, plusieurs aides, qui ne sont pas données en fonction du revenu. Alors, souvent, les gens se disent, bon, mais si je fais une déclaration de revenu, j'ai un faible revenu, je ne peux pas utiliser aucun des crédits d'impôt qui existent parce que j'ai un faible revenu. Alors, c'est pas exact. C'est pas exact. Il y a plusieurs crédits d'impôt et programmes qui sont disponibles pour les gens qui ont un faible revenu ou qui n'en ont pas. À commencer, au gouvernement du Québec, par le crédit d'impôt pour solidarité.
Oui.
C'est le plus important. Il y a une composante TVQ, une composante logement. Alors avant, là, il y avait un crédit d'impôt pour le logement, un crédit d'impôt pour la TVQ. Maintenant, c'est mis ensemble.
Il s'agit du même crédit, mais ça a la même portée.
Même portée, et c'est un crédit d'impôt remboursable. Ça veut dire que, en fonction de votre situation, vous allez avoir de l'argent si vous y avez droit, puis généralement, quand on a un faible revenu, on y a droit, donc il y a de l'argent qui vous est versé. Mm-hmm. Ensuite de ça, il y en a plusieurs autres aides qui peuvent être remboursables. Je pense par ailleurs au crédit d'impôt pour les frais médicaux.
Oui.
D'impôt remboursable pour les frais médicaux. Si vous avez des frais médicaux que vous avez avancés pendant l'année, même si c'est peu, il y a un crédit d'impôt remboursable pour les frais médicaux. Même chose pour le crédit d'impôt pour les frais de garde d'enfants. Si vous avez des enfants, c'est un crédit d'impôt qui est remboursable et il y a un supplément quand il y a des personnes en situation de handicap. Donc,
le crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés aussi, je pense, rentre dans cette catégorie.
Exactement. Donc, il y en a une panoplie. Et puis, les logiciels d'impôt maintenant, si vous ne le faites pas faire par d'autres personnes, puis on y reviendra, sont très bons pour vous aider puis vous inciter à demander ces crédits-là. Donc, pour l'amour, ne faites pas l'erreur de ne pas faire une déclaration d'impôt.
Voilà, parce qu'on dit familièrement faire son rapport d'impôt. Alors, c'est certain que ça donne l'impression que si on ne paye pas d'impôt, on n'a rien à rapporter. Mais le terme juste, c'est une déclaration de revenus. Et, oui. et le fait de ne pas avoir de revenus et de le déclarer, à ce moment-là, ça nous identifie auprès des autorités gouvernementales comme pouvant avoir besoin ou ayant droit à certains programmes. Alors,
exactement.
En fait, c'est lever sa main puis dire, ben moi, j'ai pas de revenus ou moi, mes revenus sont très faibles.
Exactement.
Je suis donc éligible à tel ou tel programme.
Et ça vous empêche aussi d'avoir droit à une pénalité si vous remboursez pas si vous faites pas votre déclaration. Il peut y avoir des sanctions pour ça. Donc, même si les chances sont faibles, faut pas courir la chance. Donc, ça vous protège pour ça aussi jusqu'à un certain point. C'est une pénalité qu'on pourrait ne pas avoir. Évidemment, il y a notre grand message, nous, à Finautonome, à l'effet que lorsque vous faites une déclaration d'impôt, si vous demandez le CIPH, le crédit d'impôt pour personnes handicapées fédérales, ou le montant pour déficience grave et prolongée du gouvernement provincial, même si vous n'avez pas droit à un remboursement, le CIPH va vous donner le droit d'autres mesures pour personnes handicapées.
Tout à fait.
Dont l'accès au RII.
Exact.
Qui est un régime enrichi d'épargne invalidité qui vous permet, même si vous avez un très faible revenu, d'avoir 1 000 gratuitement pendant 20 ans si vous êtes dans la zone d'âge fixée, donc entre 1 et 49 ans. Ça aussi, c'est de l'argent qui est sur la table, mais vous avez absolument besoin de remplir le rapport d'impôt pour avoir droit à ça au moins une fois, c'est-à-dire faire votre déclaration de CIPH. D'ailleurs, je vous rappelle pour tout le monde, si vous avez des doutes à savoir si vous êtes une personne handicapée, au regard des agences fiscales, c'est pas parce que vous ne vous sentez pas handicapé que les agences fiscales ne vous considèrent pas comme telles, donc ça n'a pas rapport avec comment vous vous sentez. Sur les rapports d'impôt, il y a une case où on peut cocher, dire qu'on pense qu'on est une personne handicapée. Si vous n'avez pas le CIPH, l'agence du revenu va vous envoyer gratuitement
un formulaire
à remplir.
Si on est dans le doute, l'agence de revenus va nous aider à trouver la réponse, en fait.
Va nous envoyer le formulaire à remplir par notre médecin. Donc, c'est une étape de moins à faire. Mm-hmm. C'est-à-dire que vous n'avez pas à vous trouver le formulaire, aller le chercher partout. L'agence de revenus va vous l'envoyer. Vous pourrez aller voir votre médecin après puis le remplir, votre médecin ou votre professionnel de la santé. Donc, encore une fois, c'est un petit avantage de faire une déclaration d'impôt qui permet des fois de passer outre certaines étapes qui peuvent être fastidieuses.
Ça nous permet d'être reconnus par le système, comme quoi nous existons, nous avons peu de revenus ou pas du tout,
exactement.
Et quel est notre statut fiscal. Alors, si on passe sous le radar et qu'on est tout à fait hors du champ, bien là, l'État ne peut pas nous aider parce que, entre guillemets, on n'existe pas.
Exactement.
Donc,
il faut
se déclarer.
C'est ça. Et je dirais même plus, si par un beau hasard, vous avez de plus grands revenus dans le futur. Mm-hmm. Vous pouvez des fois réclamer des choses qui sont rétroactives. Donc,
le CIPH, entre autres, on peut retourner 10 années derrière.
Exactement. Donc, c'est important de le faire à chaque année. En fait, le message principal, je pense qu'il faudrait dire, c'est que vous ne perdez rien à faire ça.
Voilà.
Vous ne perdez rien. Puis, il y a des aides qui existent.
C'était ma deuxième question, M. Caron, parce que produire une déclaration de revenus, ça peut être pour toutes sortes de raisons d'accessibilité ou simplement de complexité, être quelque chose qui rebute des gens. Ça peut être là aussi être une barrière qui va faire que nous ne ferons pas la déclaration et en conséquence, nous allons passer à côté.
Exactement.
Et est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il y a des appuis? Est-ce que le gouvernement peut nous aider?
Oui.
Pour faire une déclaration.
Si vous écrivez dans Google « comptoir d'impôts gratuit », ces trois mots-là, vous allez arriver très rapidement en premier à la page du gouvernement fédéral où il y a un répertoire de tous les centres d'impôts bénévoles à la grandeur du territoire.
D'accord.
Au Québec puis dans le reste du Canada. Ou vous pouvez également appeler le 211, qui est l'équivalent du 31, mais pour des services sociaux et communautaires. Et vous leur dire, ben moi, je vis là, est-ce qu'il y a une clinique d'impôt dans ma région? Et ces services-là sont répertoriés et il y en a plein. Il y a beaucoup de bénévoles qui vous attendent pour faire cette déclaration-là. Puis nous, Finautonome, on est à la disposition des centres d'impôt aussi. Si les centres d'impôt nous écoutent, ils veulent l'information sur le CPHRI, etc., on est là pour eux. Donc, il y a beaucoup de services qui sont en attente des gens. Puis, généralement, avec les deux trucs que je vous ai donnés, vous n'allez pas vous retrouver seul à remplir votre déclaration d'impôt. Si c'est quelque chose qui vous rebute, là, il y a des gens qui sont prêts à le faire avec vous.
Oui, parce que, répétons-le, le programme des bénévoles, c'est administré à la fois par l'Agence du revenu du Canada et par Revenu Québec. Et exact. Il s'agit d'aides que les gouvernements apportent à souvent des services communautaires qui ont toutes sortes d'autres fonctions au courant de l'année, mais qui, pendant la saison des impôts, offrent la production des revenus, de la déclaration de revenus, souvent à très peu de frais. Des fois, c'est gratuit. Des fois, on demande une contribution là, de 5 $
Et n'oubliez pas qu'il y a des logiciels, je ne veux pas faire la publicité ici de logiciels pour faire des impôts, mais il y a des logiciels en ligne assez oui. facilement trouvables que si vous n'avez pas d'impôts à payer, c'est gratuit aussi pour vous. Donc, si vous avez un peu de facilité avec ça, cherchez ces logiciels-là. Je vous le dis, si vous n'avez pas d'impôts à payer, la facture va être gratuite. Donc, ça peut être une autre manière d'arriver à nos fins assez facilement, là, parce que les logiciels de nos jours aussi peuvent nous aider. Ils nous demandent les bonnes questions puis remplissent ces formulaires à notre place. Donc, ça peut être une autre voie possible. D'ailleurs, les bénévoles
pour les avoir,
vont utiliser ces services-là avec vous.
Pour les avoir essayés, je peux vous dire aussi que certains ou la plupart des logiciels les plus connus dans la classe production de rapports d'impôts, de déclaration de revenus pour une personne handicapée visuelle sont assez accessibles. C'est certain que ça demande un peu de navigation, mais ils ne sont pas impossibles comme outil. Alors, de ce côté-là, c'est une bonne nouvelle. Il faut comprendre, cependant, que le programme de production de déclaration de revenus par des organismes communautaires, tout de même, il y a certaines règles à respecter. Il faut être, je pense, de bonne foi, une personne ou une maisonnée à revenus modestes. C'est pas donné à tout le monde.
Effectivement. Mais ça, de toute façon, les gens, généralement, le voient assez facilement. Si vous avez avec des T4 puis des relevés 1 qui vous mettent dans une mauvaise catégorie.
Oui, tout à fait.
Vous ferez pas long chemin dans ça, mais on a les deux, je pense, confiance dans la probité des gens.
Oui, tout à fait. Ben, en fait, pour être précis, les critères à respecter, une personne doit avoir un revenu de 25 000 $ ou moins. S'il s'agit d'un couple, c'est 30 000 $ ou moins. Et il ne faut pas que cette situation soit complexe. Et le gouvernement établit qu'une situation complexe, c'est vous n'êtes pas travailleur autonome, vous n'avez pas vendu d'immeuble, vous n'avez pas déclaré faillite ou des choses comme celle-là.
Oui.
C'est sûr qu'il faut comprendre qu'on essaie d'aider des personnes qui ont des déclarations assez simples et qui ont des revenus modestes.
Exact. Mais c'est ça, arrivez pas avec quelque chose qui a une plus-value comme la vente d'actions, mais de toute façon, généralement, sans fausse blague, ça vient un peu ensemble, c'est-à-dire que si on a un revenu modeste, on n'a justement pas trop d'actifs à gérer qui peuvent générer de la complexité fiscale.
Donc, pour conclure, M. Caron, il est possible, il est nécessaire de faire un rapport d'impôt ou une déclaration de revenus, et il est possible de la faire à peu de frais si on est rebuté par l'exercice.
Exactement. Donc, je vous le rappelle encore, comptoir d'impôts gratuit dans Google, ça va vous venir à la page qui a le répertoire de tout ça, ou le 211. Puis, les gens vont être là pour vous. Puis nous, ben, on est là pour les cliniques d'impôts. Vous pouvez même nous appeler, nous, directement à notre ligne d'aide de Finautonome. On va faire notre possible pour répondre à vos questions, vous diriger au bon endroit.
Ben, merci beaucoup, M. Caron. Bonne saison d'impôts.
Merci, vous aussi. Thank you.
Someday My Prince Will Come, une chanson qui en fait a été créée à l'origine pour le film de dessin animé de Walt Disney, Blanche-Neige et les Sept Nains. Et ça a été écrit par Frank Churchill et Larry Morey en 1937. Et cette chanson, bien qu'elle ait une origine donc cinématographique familiale, est devenue un standard dans le répertoire de jazz. Et on vient d'entendre Oscar Peterson et l'orchestre de Bill Ridley l'interpréter. Voilà. Madame Isabelle Côté, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes directrice générale et artistique du théâtre Aphasique, théâtre qui aide des personnes atteintes d'aphasie à recouvrir le sens de la communication, l'estime de soi et plein de belles choses comme ça. D'abord, qu'est-ce que l'aphasie?
Alors, c'est la conséquence d'un dommage cérébral qui a lieu dans la partie gauche du cerveau. Principalement, c'est à la suite d'un accident vasculaire cérébral ou un traumatisme crânien ou également une tumeur au cerveau. Donc, du côté gauche du cerveau, on parle de... c'est là où il y a le secteur de la communication et de la parole. Donc, les gens qui vont avoir eu un dommage cérébral de ce côté-là vont pouvoir avoir des problématiques au niveau de la langue, c'est-à-dire du langage, bien sûr, mais également de la compréhension. Et donc, avoir des séquelles plus ou moins importantes. Là. Évidemment, ça dépend.
Ça peut être l'écrit aussi. Ça peut être la difficulté
également
d'écrire
l'écrit
ou de lire.
Oui. Oui, c'est vraiment tout ce qui touche la communication. C'est comme si on ne comprenait plus notre propre langue. Alors, l'exemple que les orthophonistes vont souvent dire, c'est que c'est comme si la personne se retrouvait en Chine. Donc, tu ne reconnais pas l'écriture, tu ne reconnais pas la langue et tu ne peux pas l'exprimer non plus. Donc, c'est comme se retrouver vraiment isolé avec plus de possibilités de communiquer avec ses proches.
Et pourtant, on veut communiquer parce que l'esprit continue de former des idées, des concepts. On veut réagir à ce qui se passe, mais on est coupé du monde.
Les phrases dans la tête, hein, les phrases continuent. Le langage dans la tête continue, mais effectivement, il n'y a plus moyen. Puis là, ben, on dit, ça c'est l'extrême, évidemment, parce que les gens vont refaire de la réadaptation, vont aller en orthophonie pour récupérer la langue. Et puis, ben, évidemment, là, ça va dépendre de l'importance du dommage, combien de temps la personne a été secourue, du moins, là, ou a pu récupérer.
Il y a une importance au délai entre l'accident qui a causé l'aphasie et la rééducation. Il ne faut pas attendre trop longtemps, quoi.
Effectivement. Si quelqu'un s'est retrouvé à l'hôpital très, très rapidement, ben, il y a moins de chances qu'il y ait des dommages à long terme que si quelqu'un a perdu connaissance et est retrouvé, je ne sais pas, moi, deux jours plus tard, ben là, il est possible que les dommages soient plus importants. Et puis, ben, évidemment, ils vont consulter une orthophoniste, ils vont aller en réadaptation. Et puis après, ben, il reste des dommages pour certains à différents degrés. Là. Donc, il y a des gens qui ne vont pas récupérer nécessairement la langue. Il y a des gens qui reparlent assez bien, qui vont avoir des difficultés peut-être plus au niveau de l'organisation des idées. Il va y avoir de la recherche du mot. Ben, ça, on en a tous les jours.
Hein. Oui.
Les gens,
c'est quelque
mot,
chose
là,
qui est commun un peu à tout le monde. Mais
absolument,
ça va être plus appuyé dans ces cas-là.
Oui, tout à fait. Plus fréquent également.
Il y a 6 000 Québécois chaque année qui sont touchés par l'aphasie. Alors, c'est tout de même une population. C'est pas négligeable. C'est quelque chose qui survient quotidiennement dans nos hôpitaux, dans nos centres de réadaptation. Et comment est-ce que le théâtre, parce que vous êtes une directrice artistique, Mme Côté, du théâtre aphasique, comment est-ce que le théâtre intervient dans le processus?
Je parle pour ma paroisse, bien sûr, mais j'aime à croire que le théâtre est tellement un élément intéressant pour aider ces gens-là, parce que le théâtre, c'est un langage. On utilise le corps, on utilise l'expression, on utilise la parole, bien sûr, pour le théâtre. Et puis, ben, c'est de favoriser à trouver des nouveaux outils de communication. Si la personne a beaucoup de difficultés au niveau du langage, on va travailler davantage le geste, l'expression et tout ça. Puis pour ceux qui reparlent, bien sûr, ils veulent parler plus, ils veulent continuer d'améliorer leur langage. Donc, rien de tel que le théâtre, donc apprendre des textes, dire des textes, travailler l'articulation, la projection, la prononciation. Alors, tout ça se fait selon les capacités des gens, bien sûr, parce qu'il y a différents groupes, il y a différents objectifs. On a des ateliers de théâtre, on a également une troupe de théâtre. Alors, ils ont bien sûr des objectifs différents, mais chose certaine, c'est qu'on peut aller chercher tout le monde, et même les gens qui sont hémiplégiques, donc qui ont une paralysie de la moitié du corps, qui vont être en fauteuil roulant, tout ça, ben, il y a ces capacités-là toujours d'être expressif et de bouger et de s'exprimer.
Existe. Et le désir de s'exprimer, lui, n'est pas mort. Il y a ben peut-être voilà. Même une soif encore plus appuyée de sortir de, je dirais, de la coquille que la maladie nous a imposée. Mm-hmm. Pour s'adresser au monde. Est-ce que le théâtre est physiquement dans un lieu ou est-ce que vous allez là où sont les gens?
En fait, normalement, on est à l'hôpital Villa Medica, qui est un hôpital de réadaptation. Donc, c'est intéressant ici-là parce que les gens qui sont déjà en réadaptation à cet hôpital-là, on va leur suggérer de venir participer à nos activités. Et comme on est déjà dans les lieux, ben, ça devient une espèce de continuité normale pour eux. Alors, ils vont faire leur réadaptation, ils vont en orthophonie, et quand tout ça se termine, ben, ils continuent quand même d'aller à l'hôpital parce que l'organisme est là. Donc, ils sont en confiance, c'est une continuité naturelle. Je vous dirais que ça, c'est avant la pandémie, bien sûr, parce que vous devinez que des ateliers d'art dramatique dans un hôpital en temps de pandémie,
c'était peut-être pas indiqué. Il y a une aspect social aussi à ça. Les gens qui font face à une aphasie, c'est brusque, c'est souvent après un incident cérébrovasculaire. Donc, ça frappe tout d'un coup. On se retrouve isolé par rapport à notre milieu, notre famille. Et il doit y avoir un plaisir à rencontrer d'autres personnes qui ont le même vécu.
Ah, absolument, absolument. Mais c'est souvent ce que je dis, d'ailleurs. On a beau dire, là, et c'est sûr que au théâtre aphasique, je vous parle de trouver des nouveaux outils de communication. On parle bien sûr de poursuivre les acquis, mais dans le fond, là, avoir du plaisir, retrouver le plaisir de communiquer sans jugement, sans stress, sans de le fait de pouvoir être avec un groupe, de rire, de partager, ils n'ont pas besoin d'expliquer, tout le monde comprend, tout le monde vit la même chose. Alors, c'est effectivement de dédramatiser ensemble, de rire de nos problèmes ou de nos petits lapsus qu'on a fait ou tout ça, c'est vraiment l'objectif numéro un, là, retrouver le plaisir de communiquer.
Parce qu'à l'intérieur de l'activité, il n'y a pas de jugement, alors que la personne qui vit avec une aphasie partielle dans la vie quotidienne se fait toujours regarder de travers. Mm-hmm. Parce que on fait très malheureusement l'équation que si la personne est aphasique, c'est peut-être aussi parce qu'elle a une difficulté de compréhension. Et là, voilà. Tous les préjugés qui malheureusement existent déjà quant à la santé mentale embarquent par-dessus et ça ne fait que se compliquer.
Absolument. Absolument. Puis ça, bien évidemment, ce type. Puis le fait également que nous, on n'ait pas connu les gens avant, il n'y a pas de comparatif. Alors, je ne suis pas quelqu'un de la famille qui ne peut que toujours comparer mon proche avec ce qui était capable de faire avant, puis là, ce qui n'est plus capable. Et on veut pas, là, on ne peut pas s'empêcher de ça. Nous, on arrive, puis on les prend tels quels et on ne les a pas connus avant. Alors, ils ne peuvent que s'améliorer en tout pour nous.
Vous avez parlé, Mme Côté, brièvement, de l'impact, évidemment, que la pandémie a eu sur vos activités. Mais vous en avez fait tout de même, vous avez trouvé des moyens d'y arriver et ça va continuer à progresser dans ce sens-là, je pense, pour vous, du côté de vos activités.
Bien sûr, on a développé le côté virtuel. Je vous avoue que je n'aurais pas cru avant la pandémie que je pourrais vous parler de nos ateliers virtuels. On n'aurait pas essayé ça, je pense, normalement, mais oui, on a dû le faire, sinon on coupait complètement le contact. Donc, on a développé toute une palette d'ateliers, d'exercices, de moments de rencontre en virtuel avec nos participants. Et puis là, heureusement quand même, depuis septembre, on a loué des locaux à l'extérieur. Donc, on est dans un centre communautaire au Patro Villeray. Donc, on a pu recommencer nos rencontres en présentiel, mais tout en continuant avec le virtuel parce que ça convenait à beaucoup de gens, ne serait-ce que parce que c'est pas nécessairement des gens qui sont à Montréal. Donc, on a des gens de l'extérieur de Montréal et du Québec, donc qui peuvent continuer de faire les ateliers avec nous en virtuel.
Pas trop, parce que vous avez parlé tout à l'heure de votre activité à Villa Medica, mais le Patro Villeray, ça s'est ouvert à toute personne, comme vous dites, qui peut venir de région. Patro Villeray, ça ne doit pas être trop loin du métro Jarry.
Oui, en fait, c'est ça, c'est métro Jean Talon.
D'accord.
Et puis là, ben, les gens qui sont à Montréal, donc qui peuvent se déplacer, peuvent venir à nos rencontres, à nos ateliers en matinée au Patro Villeray.
Et ce n'est pas que du théâtre, il y a des ateliers de lecture et de d'autres formes d'approche.
Oui, on a un atelier de peinture également. Et puis, atelier de lecture. Il y a eu des ateliers d'écriture également et les participants ont fini par écrire une pièce de théâtre, donc pour la troupe de théâtre. Alors, tout ça est lié, bien sûr. Et il y a la troupe qui répète le prochain spectacle du théâtre aphasique. Des spectacles, généralement, donc on joue des spectacles.
Ben, c'est bien,
ça. On présente
c'est...
un peu partout. On veut sensibiliser la population à l'aphasie.
Excellent. Donc, Madame Côté, je vous remercie beaucoup de nous avoir parlé du théâtre aphasique et on va suivre ça de près pour pouvoir y assister.
Bien, merci beaucoup, ça a été un plaisir. Merci.
Sans détour avec François Beauregard.
De retour après la pause. Depuis 2 ans, bientôt ce sera l'anniversaire, nous vivons avec le port du masque. Et ça va peut-être changer, mais pas tout de suite. Le port du masque a un effet particulièrement marqué chez les gens qui, avec un handicap visuel, essaient de se repérer dans l'espace. Et cette question, ce questionnement, Mme Chantal Crédit, qui est chercheure à l'École d'optométrie de l'Université de Montréal, s'est penchée sur le sujet. Bonjour, Mme Crédit.
Bonjour.
Vous avez fait une recherche vraiment qui porte sur comment le port du masque peut changer ou affecter l'orientation des personnes qui vivent avec un handicap visuel. Comment est-ce que vous vous êtes pris pour faire votre recherche? Comment ça a commencé?
Oui, effectivement. Donc, en commençant ma maîtrise en orientation et mobilité, je cherchais un projet sur lequel travailler, puis on a remarqué qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'études qui travaillaient l'impact du masque sur la population malvoyante. Puis ça a mené à la création d'un masque transparent qui a aidé à régler beaucoup des problèmes que cette population vivait.
La population malentendante.
Exactement.
D'accord.
Puis on avait trouvé 0 étude sur l'impact du port du masque sur la population malvoyante, malgré le fait que beaucoup de personnes de la communauté malvoyante ont reporté avoir eu des problèmes liés au masque dans leur orientation et leur mobilité. Sur les médias sociaux et sur d'autres plateformes Internet. Donc, on a décidé de faire le projet qui s'intitulait « L'impact du port du masque sur l'utilisation de l'écolocation durant les déplacements des personnes ayant une déficience visuelle ».
L'écolocation, pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas familiers ou familières avec le concept, c'est la façon dont nous, personnes vivant avec un handicap visuel, nous nous repérons dans l'espace. Et ça peut être à la fois par le son, mais ça peut être aussi par d'autres perceptions sensorielles.
Exactement.
Et le masque change ce que nous ressentons sur notre visage ou ainsi de suite. Alors, comment vous êtes pris d'abord pour rejoindre votre échantillonnage?
Oui, donc on a créé un questionnaire en ligne. Puis on a mis plusieurs questions en lien avec leur orientation et la mobilité, avec l'impact du port du masque, etc. Puis on avait on avait envoyé
le questionnaire.
Le questionnaire, exactement. Donc l'invitation à répondre au questionnaire. On l'avait envoyé par plusieurs méthodes, donc sur les médias sociaux, des groupes Facebook, des groupes d'emails qu'on avait déjà, des organisations et des centres de réadaptation. Et on a utilisé l'échantillonnage en boule de neige également. Donc, les personnes en parlaient à leurs amis ou à leur entourage.
Le bouche à oreille.
Exactement.
Et au total, combien de personnes se sont prêtées au jeu? Combien de personnes ont répondu à vos questions?
Au total, on avait 135 participants.
Est-ce que ces personnes-là avaient toutes les mêmes caractéristiques en termes d'âge, en termes de déficit visuel? Est-ce qu'il y avait d'autres formes de perte sensorielle qui étaient en jeu?
Donc, oui. Donc, la majorité de nos participants avaient une déficience visuelle, bien sûr. Et certains de nos participants avaient une déficience auditive aussi. La tranche d'âge, ça passait de 18 à 79 ans.
Oh, c'est assez large. Donc, oui, ça couvrait. Et est-ce que tout le monde a remarqué? Est-ce que tous vos répondants ont trouvé que le port du masque avait un impact sur les colocations?
La majorité de nos participants avaient trouvé des difficultés dans leurs déplacements à cause du masque, mais il y en a beaucoup aussi qui ont reporté ne pas avoir eu de difficultés ou ne pas avoir eu de difficultés en lien avec leur mobilité précisément, donc plus de difficultés dans la communication, par exemple, ou dans la prestation de services et tout. Donc, c'est pas vraiment relié au masque, mais la majorité, c'était en lien avec le masque.
Quand on parle de masque, il faut aussi comprendre qu'il existe dans le tiroir chez tout le monde différents types de masques. Est-ce qu'il s'agissait uniquement du masque N95, qui fait souvent la manchette? Est-ce qu'il s'agissait de masques de procédure médicale? Est-ce qu'il s'agissait de masques en tissu là, qu'on se fabrique soi-même? Est-ce qu'il y a une différence quant au résultat selon le type de masque qui est employé?
Donc, la majorité de nos participants ont reporté utiliser des masques en tissu ou des masques chirurgicaux. Mais beaucoup de participants ont reporté que le masque en tissu a été créé plus de problèmes que le masque chirurgical.
D'accord.
Et la raison pour ça, ce qu'on suggère, ça serait que parce qu'il y a certains tissus, certains matériaux qui absorbent le son, donc ça atténue ou ça déforme la perception des sons autour de soi. Donc ça affecte l'écholocation.
Il y a aussi, je pense, la perception olfactive, parce qu'on peut se retrouver dans un endroit familier ou sachant que c'est normal qu'ici, ça sente la cigarette, ou on sait qu'il y a un restaurant pas très loin parce qu'il y a toujours un relent d'oignon frit, là. Est-ce que le port du masque, chez vos répondants, on a identifié aussi qu'il y avait d'autres types de sensations qui... Était coupé par le masque?
Oui, effectivement. Donc, beaucoup de personnes ont reporté que la sensation olfactive et également la sensation de tout ce qu'ils sentent au niveau du visage, des joues, le soleil, le vent, la brise, etc. Donc, tout ça, ça a affecté leur orientation, entre autres, durant leur déplacement.
Est-ce qu'il y a des... Comment les gens se sont adaptés? Parce qu'on peut penser que le port du masque fera partie de notre réalité encore pour un moment. Est-ce qu'il y a des adaptations? Est-ce que les gens étaient capables de faire autrement, de s'en tirer, ou est-ce que c'est malheureusement un facteur de coupure qui ne semble pas trouver de solution?
Bien, on avait une question dans le questionnaire où est-ce qu'on a demandé à nos participants quelles étaient les stratégies qu'ils utilisent à date pour surmonter les problèmes qu'ils sont en train de vivre. Puis les trois stratégies les plus reportées par nos participants, c'était vraiment l'utilisation d'autres sens, donc entre autres plus le tactile, l'utilisation d'un guide voyant et le recours à des services de livraison. Par contre, guide voyant et services de livraison en ligne, même les personnes qui ont dit utiliser ça comme stratégie de compensation ont dit que c'était encore plus compliqué durant la pandémie à cause de la distanciation sociale. C'était moins facile de trouver un guide voyant. Et les services en ligne de livraison sont généralement pas toujours accessibles. Donc, ça crée une barrière également.
Oui, c'est malheureusement, on est devenu plus... techno-dépendant avec le confinement et la pandémie, et ça a mis en lumière les sites qui n'étaient pas très accessibles. Ça a été un choc parfois, mais c'est une réalité. Net, le port du masque a en fait forcé les personnes qui vivent avec un handicap visuel à se refermer un peu, à être moins participants à la société.
Oui, exactement. Beaucoup de participants ont malheureusement reporté avoir accepté le fait, puis rester plus à la maison ou demander à d'autres personnes de sortir pour eux lorsqu'ils ont des commissions à faire.
Mais malheureusement, il n'existe pas de masque qui encore... On a parlé tout à l'heure des personnes malentendantes pour qui le masque avec une fenêtre permettait au moins de pouvoir lire sur les lèvres et d'avoir un peu plus de communication. Mais pour les personnes non-voyantes, il n'y a pas de solution miracle. Un masque qui coupe le sens olfactif, l'impression de l'air sur notre visage ou même absorbe un peu les sons. Il n'y a pas de masque miracle, malheureusement.
Donc, c'est sûr qu'en ce moment, on n'a pas vraiment trouvé une alternative au masque en tant que tel. C'est sûr que tous les résultats qu'on a reçus ont mené à en tirer que c'est quand même important d'avoir un masque qui est correctement ajusté à chaque personne. Donc, c'est sûr que si un masque est trop grand, il va avoir un plus grand impact. Si c'est un masque en tissu, dépendamment du tissu, ça peut avoir plus d'impact. Donc, si j'avais à plus recommander pour les masques, donc choisir un masque qui est à la bonne taille, donc pas trop gros, pas trop grand. Et un masque chirurgical à date a montré... C'est pas concluant, mais la majorité des participants qui utilisaient des masques chirurgicaux et en tissu ont reporté que le masque chirurgical avait moins d'effet, même s'il y en avait pareil.
Mais c'est moins grave, c'est moins... Ça nous coupe moins du monde, si je peux dire, un masque chirurgical.
Mais exactement, s'il est bien ajusté aussi, s'il est trop grand ou trop petit, ça peut créer ses problèmes aussi.
Bien, Madame Crédy, je vous remercie beaucoup d'avoir fait cette recherche. Elle s'est étendue sur une période de plusieurs mois. Les résultats viennent tout juste d'être publiés. Madame Crédy, merci. Je pense que le masque est là pour rester sous une forme ou une autre. Alors, il faudra le plus possible trouver des adaptations. Merci.
Oui, on y travaille.
Merci, bonne journée.
Merci, bonne journée, au revoir.
Je vous ai apporté des bonbons parce que les fleurs, c'est périssable. Puis les bonbons, c'est tellement bon, bien que les fleurs soient plus présentables. Surtout quand elles sont en bouton. Mais je vous ai apporté des bonbons. J'espère qu'on pourra se promener, que madame votre mère ne dira rien. On ira voir passer les trains à 8 heures. Moi je vous ramènerai. Quel beau dimanche, allez, pour la saison. Je vous ai apporté des bonbons. Si vous saviez ce que je suis fier de vous voir pendu à mon bras. Les gens me regardent de travers, il y en a même qui rient derrière moi. Le monde est plein de polissons. Je vous ai apporté des bonbons. Oh oui, Germaine est moins bien que vous. Oh oui, Germaine, elle est moins belle. C'est vrai que Germaine a des cheveux roux. C'est vrai que Germaine, elle est cruelle. Ça, vous avez 1000 fois raison. Je vous ai apporté des bonbons. Et nous voilà sur la grande place. Sur le kiosque, on joue Mozart. mais dites-moi que c'est par hasard qu'il y a là votre ami Léon. Si vous voulez que je cède la place, j'avais apporté de bonbons. Mais bonjour, mademoiselle Germaine, je vous ai apporté de bonbons. Parce que les fleurs, c'est périssable, puis les bonbons, c'est tellement bon, bien que les fleurs soient plus présentables, surtout quand elles sont en bouton. Allez, je vous ai apporté de bonbons.
Vous aurez tous et toutes reconnu Jacques Brel, Les bonbons, hein, qui a été composé, interprété par Jacques Brel, publié en 1963. L'histoire de l'amoureux est conduit. En 1967, si vous faites un peu de recherche, Jacques Brel a fait une autre chanson qui est en fait la suite de l'histoire, où là, le type avec les bonbons est un petit peu plus affirmatif, et puis finalement, Germaine n'est plus dans le portrait, là. Et c'est comme un peu une parodie d'une parodie. Alors, faites une recherche, Les bonbons, 1967, vous allez y retrouver un clin d'œil à cette première chanson. Nous avons le plaisir d'avoir en notre compagnie Mme Christiane Campagna. Comment allez-vous?
Je vais très bien, et vous?
Ça va super, je vous remercie. Et on a plein de choses qui se passent dans le monde.
Oui, et du côté de la France, il y a des élections qui s'en viennent.
C'est vrai.
Et avec les élections viennent les soucis d'accessibilité des informations. Alors, il y a un Conseil national consultatif des personnes handicapées, le CNCPH, qui a mis en place un observatoire sur l'accessibilité des plateformes électorales. Selon Jérémy Borot, qui est président du Conseil, il dit « Nous partons de zéro. Parmi la trentaine de candidats à l'élection présidentielle aujourd'hui déclarés, aucun n'a fait figurer pour l'heure d'informations relatives à l'accessibilité sur son site de campagne. » À 90 jours du premier tour, donc, on a décidé de mettre en place cet observatoire pour mesurer l'accessibilité des campagnes et des scrutins de 2022. L'objectif, c'est de suivre au quotidien l'amélioration de celle de la présidentielle, puis des législatives.
En fait, parmi les candidats à la présidentielle française, malheureusement, il n'y a pas été question de personnes en situation de handicap, d'accessibilité. Et la seule fois que candidat présidentiel et handicap se retrouvent dans la même recherche, on tombe sur M. Zemmour, qui a dit des énormités.
Absolument.
Alors, ça augure assez mal.
Mais pour l'instant, cet observatoire se contente de mesurer l'accessibilité, non pas les contenus. Mais donc, il y aurait vraiment donc, toute une équipe qui va mesurer les choses sur le terrain, sur le web, mais une évaluation des 577 circonscriptions n'est pas possible. Ils n'auraient pas assez de temps, ni de gens, ni d'argent. Alors, il y a 7 territoires là, qui ont été sélectionnés pour être analysés. Ils vont accorder une attention particulière à la qualité des mesures d'accessibilité selon divers critères d'évaluation. On parle de différents aspects. Premièrement, les assemblées publiques. Est-ce qu'il y aura de l'interprétation en langue des signes française? Est-ce que les lieux sont accessibles? On va aussi analyser le volet numérique. Bien entendu, les recommandations du référentiel d'amélioration d'accessibilité, qui sont les normes pour l'accessibilité du web. Aussi, la présence d'interprétation en langue des signes sur les sites web et aussi d'informations en FALC, le facile à lire et à comprendre, qui permet aux personnes avec un handicap intellectuel de bénéficier du même niveau d'information que les autres. Et on va aussi regarder ce qui se passe du côté des médias.
Oui, les débats, entre autres, savoir si la langue des signes est utilisée.
Oui, et si le médaillon est bien placé, s'il occupe une place assez importante sur l'écran. Et on va aussi s'assurer qu'il y ait des versions en reprise disponibles de haute qualité avec, encore une fois, des sous-titrages et de la langue des signes française. Comme le dit le directeur, le but de l'Observatoire n'est pas de piéger les équipes, mais de leur donner envie de désigner un interlocuteur qui sera le Madame, Monsieur Accessibilité de leur campagne. Et chaque semaine, jusqu'au deuxième tour de la présidentielle, il promet de diffuser un relevé des bonnes pratiques candidat par candidat. Et on va retrouver ça sur la page cncph.fr/électoral.
Peut-être de bonnes pratiques vont naître de cet effort. Peut-être qu'il y aura quelque chose à reproduire sur d'autres scènes.
Absolument.
Parlant de scène.
Oui, on s'en va du côté des Oscars. Les nominations sont sorties. Et l'acteur de Coda, Troy Koster, entre dans l'histoire en tant que premier acteur sourd masculin à être nommé. On se rappelle que sa co-star dans le film Coda, Marley Matlin, était devenue la première nominée et gagnante sourde en 1986 pour le film Children of a Lesser God. Alors, il dit qu'il se souvient, lui, de l'époque où elle avait gagné et qu'il avait dit à ses amis que lui aussi, un jour, allait être nommé aux Oscars. Et
oh,
que
la
ses
belle
amis,
histoire!
Mais que ses amis avaient été fort sceptiques. Et c'est ce qu'il a indiqué dans un communiqué après sa nomination. Le film Coda, qui, on le rappelle, est une version américaine du film La famille Bélier, le film français sorti il y a quelques années, est devenu un succès retentissant après le festival du film de Sundance en 2021. C'est Apple qui l'a acquis. Et le film est devenu un grand concurrent cette saison là, pour toutes les cérémonies de récompense, y compris avec une nomination aux Oscars pour meilleur film. Et M. Kotzer accumule les nominations depuis. Il est également nommé pour un SWAG Award, un BAFTA et un Film Independent Spirit Award.
Bravo. Le film raconte l'histoire d'une famille sourde.
C'est que les parents sont sourds et leur fille est la seule entendante de leur famille.
Ah,
elle leur sert d'interprète. Mais là, elle fait face au dilemme. Elle veut aller à l'université, ce qui va impliquer de quitter et sa famille pour aller
d'où
vivre
à la ville. D'où le déchirement.
Exactement. Maintenant, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. La
oui.
fête de l'amour. Vous en avez parlé en début d'émission. Mais un texte d'opinion qui nous rappelle que la Saint-Valentin, c'est aussi un rappel du choix que doivent faire des personnes handicapées entre l'amour et leurs finances. Parce que pour plusieurs Canadiens handicapés, les politiques provinciales empêchent la plupart des personnes de recevoir une aide aux personnes handicapées si elles ont un conjoint ou en tout cas d'y se couper grandement. En d'autres termes, on a légiféré l'amour pour le rendre incompatible avec la survie financière.
En fait, ça part d'un préjugé comme quoi l'amour est une chose qui est étrangère aux personnes qui vivent avec un handicap. C'est terrible à dire ça aussi crûment, là, mais je pense que le préjugé profond, il part de là.
Oui, et que votre conjoint devient votre aidant et donc vous perdez souvent des services en plus de l'argent. Donc, aussitôt qu'on se met en couple officiel, ben là, le revenu du conjoint est pris en compte et il n'a pas besoin d'être très élevé pour que vous perdiez votre aide. Ce qui signifie que dans ces relations, on est privé de son indépendance financière. On prend pour acquis qu'on sera pris en charge comme un enfant par notre conjoint. Cela signifie que sans source de revenus, on subit des pressions pour rester dans des relations qui parfois sont abusives ou toxiques. Parce que où irait-on d'autre? On n'a pas d'argent de côté puisqu'on est devenu financièrement dépendant.
Et même en dehors du handicap, la question financière est malheureusement souvent un des points qui blesse à l'intérieur des relations toxiques ou violentes. Souvent, le manque de capacité financière est une des raisons pour lesquelles des femmes vont subir des violences qui sont injustifiées et aberrantes. Injustifiées comme s'il y en existait qui étaient justifiées, c'est pas ce que je veux dire. Mais vous comprenez que l'argent est un outil de puissance.
Oui, on appelle ça la violence financière. Et si vous vous êtes fait couper votre revenu parce que vous êtes en couple et que vous n'avez plus le droit d'aide, eh bien, c'est exacerbé. Si on veut, pour mettre fin à cette discrimination systémique, les Canadiens doivent être autorisés à conserver leur admissibilité, aujourd'hui.
Admissibilité. Oh, on va essayer à deux.
Aux aides financières qui les aident à vivre. Et aussi, le gouvernement fédéral devrait accélérer la prestation canadienne pour personnes handicapées qu'il a promis en campagne électorale et qu'il a un petit peu oublié depuis.
C'est vrai qu'on en avait entendu parler.
Oui.
Et c'est vrai qu'on en entend un peu moins parler.
Une autre lettre d'opinion, elle, est d'une personne d'Ottawa qui vit avec un handicap visuel. Et elle dit « Ces manifestants pour la liberté nuisent à celle des personnes handicapées d'Ottawa. C'est un énorme obstacle pour les personnes handicapées, particulièrement celles qui ont des problèmes de vision. Il y a des obstacles évidents causés par la manifestation, des fermetures de routes et blocages affectant les services de transport adaptés, notamment, et de transport régulier, les transports Uber que les personnes peuvent utiliser pour se déplacer. Mais c'est aussi le bruit constant qui rend dangereux pour une personne malvoyante de marcher dans les zones touchées. Nous comptons sur les bruits de la circulation et les signaux sonores pour piétons pour savoir quand il est sécuritaire de traverser la route. En tant que personne aveugle, je ne peux pas traverser la seule zone occupée en toute sécurité pour le moment. Nous ne pouvons pas quitter nos maisons en toute sécurité et faire une simple promenade dans le quartier. Donc, on proteste pour la liberté tout en nous enlevant notre liberté.
Et je n'irai pas m'étendre sur le sujet parce que je pourrais utiliser un langage qui ne conviendrait pas à une émission qui est diffusée sur les ondes. Voilà. Alors, on va rester sur notre quant à soi là-dessus.
Oui. Ben, c'était ma tournée pour aujourd'hui.
Ben, bravo. On va avoir toutes sortes d'événements, évidemment, qui vont peut-être nous être rapportés au sujet des Oscars, parce qu'il va y avoir encore une fois peut-être des événements ou des problèmes ou des bons coups, des moins bons coups au courant de la cérémonie des Oscars. On se souvient que dans les années passées, il y avait eu des efforts qui avaient été faits pour une plus grande inclusivité pour les personnes vivant en situation d'handicap. Là.
La nomination du documentaire Crip Camp avait amené une scène avec une rampe. Mais il faut dire que c'était dans une version des Oscars beaucoup plus petite et réduite à cause de la COVID, donc une petite salle, une petite scène. Mais j'ai l'impression qu'on va continuer d'y aller malheureusement au cas par cas, c'est-à-dire faire une rampe les années où,
voilà,
où c'est absolument requis. Et cette même année, Marlee Matlin avait présenté un prix.
C'est vrai.
On entendait la voix de son interprète. Elle fait toujours affaire avec un interprète masculin parce qu'on ne veut pas qu'avec le temps, on confonde avec, qu'on se mette à penser que c'est sa voix à elle. Et elle nommait les nommés à une catégorie en signant en langue des signes américaine. Mais on n'a pas pensé à adapter la façon de faire du côté de la réalisation, ce qui fait que quand elle s'est mise à nommer les acteurs en nomination, on les a montrés dans la salle.
D'un coup, la langue des signes avait disparu.
Voilà. Alors, c'est pour la première fois depuis longtemps, il y avait de la langue des signes aux Oscars, mais on ne l'apercevait plus à l'écran. On n'avait pas pensé à créer un médaillon pour le moment où on allait montrer les nominés qui réagissaient dans la salle.
Oui, la langue des signes invisible, là, ça ne marche pas très bien.
Absolument.
C'est presque un oxymore. Ben, Madame Campagna, merci beaucoup de nous avoir une fois de plus fait le tour du monde avec l'angle qui est le nôtre. Et nous remercions également M. Nicolas Svartman à la recherche technique, à la mise en onde et à tout ce genre de choses-là. Quant à moi, François Beauregard, je vous dis à la semaine prochaine. Nous nous retrouverons à Sans Détour à midi lundi prochain. Bonne fin de journée, bonne fin de semaine.